pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais voir rapidement avec vous, autour de cette pensée, trois axes très simples. La première chose que m'inspire cette réflexion de Jésus, cet enseignement, pardon, de Jésus, Dieu se révèle comme un Père qui a toujours le même cœur pour pardonner. Et ça, c'est vraiment le centre de l'Évangile, que Dieu soit le Dieu du pardon. C'est simple à dire, je ne suis pas sûr que tous les chrétiens se réjouissent pleinement dans les dimensions où Dieu les attend, du pardon que Jésus leur a acquis. Dieu est réellement le Dieu du pardon. Le pardon, c'est un thème central dans l'Écriture. La bonne nouvelle, c'est que le pardon existe. C'est simple à dire. Mais combien, malheureusement, n'en ont pas encore conscience, combien ne le savent pas. Le psaume 130 dit que le pardon, la miséricorde, encore la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos âmes, pardon, miséricorde, rédemption, se trouve auprès de toi, dit le psalmiste, se trouve auprès de toi en abondance. Et il faut comprendre que le pardon se trouve auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en nous qui fasse que Dieu nous pardonne. Il n'y a rien en nous pour mériter le pardon de Dieu. Dieu est un Dieu de pardon. La grâce, le pardon est la conséquence de son cœur de grâce. Le pardon, c'est la nature de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est une caractéristique qui est 100% divine. Et non, il n'y a rien en moi, même si je faisais un mea culpa jusqu'à la fin de mes jours, il n'y a rien en moi, ni dans mes bonnes conduites, ni dans mes bonnes actions, ni dans mes bonnes intentions, ni dans ma bonne volonté, ni dans mes flagellations évangéliques parfois, il n'y a rien en moi, ni dans mon service, qui fasse que Dieu doive me pardonner de quoi que ce soit. Il le fait parce que c'est son cœur. Dieu est le Dieu du pardon. C'est ce qu'il est par nature. Et c'est ce qui fait qu'il est incomparable. Le prophète Michée s'exclame, Michée chapitre 7, « Quel Dieu est semblable à toi, toi qui pardonnes l'iniquité et qui oublie le péché ?» Et c'est ce qui fait que Dieu est réellement incomparable, qu'il est exceptionnel, parce que, oui, un souverain qui pardonne le péché... Ben, sur la terre, on n'est pas habitué à ça, quoi. Un roi qui soit miséricordieux, selon la parabole que Jésus enseigne en Matthieu 18, on la lira pour conclure tout à l'heure, tellement elle est merveilleuse. Le prophète Ésaïe, parce que le pardon est déjà dans l'Ancien Testament et largement, le prophète Ésaïe dit, c'est le chapitre 55, que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quand même extraordinaire. Si on veut bien s'arrêter pour méditer sur les dimensions de grâce et de pardon divin, ouf, là aussi, il y a de quoi avoir le vertige. Parce qu'il y a des gens, franchement, je les aime bien, vous aussi, vous avez beau être chrétien, il y en a certains, au bout d'un moment, ça va, quoi. Hein, on se comprend. Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est la grâce surabondante, la grâce surprenante de Dieu. Il accorde un pardon illimité, une grâce infinie, comme dit un chant bien connu. Le livre de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi, chapitre 4, verset 16, que le trône de Dieu est un trône de grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin que vous soyez secourus dans tous vos besoins. Et le pardon, c'est le besoin spirituel fondamental premier de l'être humain. Le premier besoin spirituel de l'homme, c'est le pardon. Parce que qui dit péché pardonné, péché oublié, dit donc dette effacée. Une dette effacée dit une conscience soulagée, une conscience apaisée. Vous répondez dans votre cœur, hein, est-ce que ce soir vous avez la conscience tranquille ? une conscience apaisée et non pas une conscience torturée, ce qui est la caractéristique d'une vie qui n'a pas réellement expérimenté ou saisi le pardon divin. Qui dit péché oublié, dette effacée, conscience soulagée, dit un cœur, une vie totalement libérée de la condamnation, libérée de la culpabilité. Je n'ai jamais vu autant de chrétiens qu'en 2018, pardon, qui sont encore écrasés par des joues de culpabilité. Avons-nous réellement saisi les dimensions du pardon divin? Je ne dis pas, est-ce qu'on a compris que Dieu est un Dieu de pardon? Ça, c'est toujours pareil. Dans la tête, on l'a bien compris. Hein. Mais est-ce qu'on a vraiment saisi les dimensions du pardon divin? Si on enlève le mot pardon de la Bible ou de l'Évangile, on décentre l'Évangile totalement. Il ne reste plus rien. Tout s'effondre. Le béaba, c'est ça. De comprendre la dimension du pardon divin pour ma vie, si j'enlève ne serait-ce que le mot pardon, je retombe dans la culpabilité, je retombe dans la condamnation, je retombe dans les œuvres religieuses, parce qu'inconsciemment, il va absolument falloir que j'essaye d'apaiser ma conscience. C'est le propre de l'être humain. L'homme et son besoin désespéré, j'insiste, désespéré, consciemment ou inconsciemment, l'homme a un besoin désespéré de se sentir, de se savoir pardonner, libérer, acquitter. Qui dit un péché effacé, dit une âme sauvée, délivrée de la colère à venir, délivrée de la séparation éternelle, délivrée de ce qu'on appelle communément enfer, même si ce mot n'est pas dans la Bible. Jésus en parle largement sous différentes métaphores. La géhenne, le feu éternel, le feu ardent, etc., etc. La géhenne, voilà. Ouf ! Pardonnez-moi de le dire ainsi. Hein. Ouf ! Je sais qu'il y a une voie, qu'il y a une possibilité de pardon. Je sais que le pardon existe et je sais où le trouver. C'est bête ce que je dis, mais je le dis quand même. Que je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien clair pour tous. La bonne nouvelle du pardon. Il faut comprendre qu'à l'époque où Jésus enseigne ça, au même titre que la parabole du fils prodigue, que la parabole du roi miséricordieux, que ce que Jésus dit, que ce que Jésus enseigne, est totalement révolutionnaire. Même si dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de pardon, attention, le pardon, c'est un sacré processus pour l'acquérir dans l'Ancien Testament. Et Jésus enseigne... Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Hein ? C'est aussi simple que ça ? Oui. Même les chrétiens, je pèse mes mots, c'est pas méchant, même les chrétiens évangéliques que nous sommes ne trouvent pas ça aussi évident et aussi simple. Alors, ce pardonne-nous nos offenses, m'amène à une deuxième réflexion, c'est que puisque Jésus a enseigné dans ce modèle de prière qu'il fallait dire « pardonne-nous nos offenses », c'est que le pardon, il faut le demander. Ça veut dire que le pardon, même si c'est une nouvelle extraordinaire, le pardon n'est pas automatique. Avec ce simple texte, ce n'est pas le seul, mais ce simple texte est grandement utile pour démonter cette fausse doctrine qui s'appelle l'universalité du salut, prônée et pratiquée par certaines religions. L'universalité du salut, c'est une fausse doctrine qui consiste à croire que, puisque Jésus est mort sur la croix à ma place, ben donc... Il a pris la place de tous, donc tous sont pardonnés, donc tous sont sauvés. Excès inverse. Ce qui a amené un jour un chanteur tristement célèbre à dire « On ira tous au paradis ». Eh bien, c'est carrément pas vrai. C'est pas biblique. Et il faut en être conscient. Oui, oui, l'universalité du salut, c'est une fausse doctrine qui existe et qui est largement répandue. On a aussi entendu dans les milieux évangéliques « Sauvez un jour, sauvez toujours !» Ah, vous avez entendu ça aussi? Et non, non, c'est pas vrai du tout. Non, 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 non. Je peux malheureusement déchoir de la grâce. La Bible est claire. Je peux malheureusement retourner à ce que j'ai vomi. La Bible est claire. Et le « sauver un jour, sauver toujours », c'est absolument pas biblique. C'est un autre excès. C'est une autre dérive. Et dans l'Écriture, les textes qui nous parlent de la démarche que nous avons de façon responsable à entreprendre pour non pas acquérir le pardon, Jésus me l'a acquis, mais pour que ce pardon devienne mien, pour qu'il devienne effectif, qu'il devienne efficace, qu'il devienne effectif dans ma vie, les textes qui me parlent de la démarche que je dois accomplir sont nombreux. Il n'y a pas que « pardonne-nous nos offenses ». Je vous l'ai cité tout à l'heure, l'Épître aux Hébreux dit bien « approchons-nous du trône de la grâce ». Oui, le trône de Dieu est devenu un trône de grâce. Et encore faut-il s'en approcher. L'apôtre Jean dit bien « si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner ». Et nous purifier de toute iniquité, première épître de Jean. L'Ancien Testament dit aussi, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère pas. Celui qui avoue ses transgressions. David, dans son psaume de repentance, c'est le psaume 32, il y a aussi le psaume 51, mais ce que je vais dire est tiré du psaume 32, David dit, tant que je me suis tué, aussi longtemps que je me taisais, mes os se consumaient, c'est-à-dire qu'il y avait une puissance de destruction à l'intérieur de lui, une puissance spirituelle, le péché, tant qu'il n'est pas pardonné, effacé par Dieu, est une puissance de destruction intérieure, de destruction spirituelle. Tant que je me suis tué, ta main s'appesantissait sur moi. Dieu ne voulait pas le détruire, mais Dieu voulait lui faire comprendre la gravité de son péché, où malheureusement il était sur le point d'aller s'il n'avait pas expérimenté une authentique confession et un authentique pardon, une authentique réconciliation avec Dieu par une vraie repentance. Tant que je me suis tué, ta main s'apesantissait sur moi. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Ben, je vous prie de m'excuser. Il y a de plus en plus de chrétiens évangéliques qui ont même du mal avec ça, savoir demander pardon à Dieu. Alors, je ne vais pas être non plus dans une peur là où à chaque midi, à chaque soir, à chaque matin, 15, 3, 4, 5, 6 fois par jour, je dis Seigneur, pardonne-moi pour le cas où j'aurais fait quelque chose. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, non, mes enfants à la maison, ils ne me demandent pas pardon 10 fois par jour. Hein. Mais il y a des moments, mes enfants, je les ai attrapés. Je lui dis, tu vas voir maman, tu lui demandes pardon. Tant que tu n'as pas demandé pardon à maman, tu restes assis là, il ne se passera plus rien. Et je te garantis, tu céderas avant moi. J'espère que vous avez su faire ça à vos enfants, hein, ça fait partie de l'éducation. Où il y a des moments, on leur a dit, tu vas demander pardon. Et il y a des moments, mon Père Céleste, oh oui, il m'aime, il est extraordinaire. On ne remet pas en question son cœur, mais à cause de son amour, et tout ça c'est dans le contexte de son amour, tu dis... Tu vas demander pardon pour ce que tu viens de faire là. Et tant que tu ne demandes pas pardon, tu es dans une impasse. Je t'aime toujours, j'ai toujours un avenir pour toi, je veux toujours des bonnes choses, le ciel est toujours rempli pour toi. Pour l'instant, tu es dans une impasse. Demande pardon. Eh bien, il y a des chrétiens, ils demandent au Seigneur 10 fois pardon par jour, même pour peut-être l'ombre du début, du commencement, de la mauvaise pensée qui aurait pu leur traverser l'esprit. Mais là, on vit sous des joues de culpabilité. C'est terrible, quoi. Là, on vit plus, on respire plus. Dieu redevient un père fouettard. Et malheureusement, d'autres, ah ben c'est merveilleux, tout baigne. Dieu m'aime, et ben puisqu'il m'aime, et ben allons-y gaiement. Allez. Et ça fait peut-être 10 ans qu'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour des choses pour lesquelles ils auraient dû largement se remettre en question. Il ne faut quand même pas oublier que la première parole du ministère public de Jésus, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme par hasard. Oui, Jésus m'a acquis le pardon à la croix, charge à moi d'aller humblement dans la repentance et la foi prendre ce qu'il m'a acquis pour que ça devienne effectif, que ça devienne actif dans ma vie. J'ai une démarche à faire. Il faut que je lui demande ce qu'il m'a acquis. Et la demande de pardon fait pleinement et totalement partie de l'expérience de la repentance. Et pas seulement le jour de ma conversion. J'ai appris que lorsque par moments j'ai été trop dur ou trop injuste, ou que j'ai irrité mes enfants, ou que d'une façon ou d'une autre, j'ai pas été à la hauteur avec mes enfants, s'il y a des moments par manque de sagesse avec ma bouche ou par mes comportements, j'ai attristé, j'ai affligé mon épouse, je ne vais pas seulement demander pardon à elle. Le premier offensé par mon manque de sagesse, c'était mon Dieu. Et j'ai dit à Dieu humblement, « Seigneur, je te demande pardon pour ce que je viens de dire à Anne. » Et après, je suis allé voir ma femme. La demande de pardon fait partie de l'expérience de la repentance et fait partie de la vie chrétienne. Le fils prodigue, à un moment, il s'est levé, il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Parce que dans la question du péché, le premier offensé, c'est toujours Dieu. Dieu est beaucoup plus offensé par les comportements d'une épouse envers un époux ou d'un époux envers une épouse. Avant que le conjoint soit offensé, Dieu est d'abord offensé, Dieu est d'abord attristé. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il n'y avait pas que le père qui était concerné. Dieu est offensé par mes comportements. Je me lèverai, il va faire une démarche, j'irai vers mon père et je lui dirai, il faut que ça sorte. Et là, encore une fois, pardon, dans les milieux chrétiens, dans les couples, dans les familles, dans les relations mari-femme, enfant-parent, ça se perd et il ne faut pas se leurrer, il y a des conséquences. La grâce de Dieu ne fait pas de nous des assistés. Non, il n'y a pas d'automatisme. Non, ce n'est pas systématique. J'ai une authentique démarche à faire. La troisième chose très simple... Si la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le Dieu du pardon et que le pardon se trouve auprès de lui en abondance, le pardon illimité, la grâce infinie. Si le deuxième point, c'est que j'ai une démarche à faire parce que je ne suis pas un assisté. Le troisième point se trouve dans ce que dit Jésus, je n'invente rien. Jésus a dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ah Seigneur, mais pourquoi t'as dit ça? C'est pas possible. Pourquoi t'as pas dit juste pardonne-nous nos offenses? Ah, ça m'aurait tellement arrangé. Le point 1, il est super. Le point 2, bon, il me dérange un peu, mais bon, encore, je veux bien faire un effort. Mais alors le point 3, ah Seigneur, combien de gens ont récité ça sans réfléchir deux secondes aux relations mais envenimées qu'ils avaient maintenues par du non-pardon, par de l'amertume, par de la rancœur, par pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh là là, mais on n'a pas réalisé un millième de ce que Jésus est en train de dire. Oh, mais ça me pose un sérieux problème. Pardonne-moi, Père, comme je pardonne. Et bizarrement, si vous lisez le Notre Père dans Matthieu 6, une fois que Jésus a fini le Notre Père, c'est à toi qu'appartiennent, règne, puissance, gloire, amen, verset 14, bam, la première chose que Dieu dit, c'est pas, si jamais vous ne faites pas connaître vos besoins à Dieu, non. La première chose que Jésus dit après le Notre Père, c'est, Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Être pardonné de Dieu est un véritable privilège. Je dois réaliser quelle est la hauteur, la dimension du privilège que Dieu m'accorde lorsqu'il efface ma dette. Et je dois comprendre qu'un grand privilège implique toujours une grande responsabilité. C'est proportionnel. Et là, le Seigneur est clair. Eh bien, pardonner, ce n'est pas une option. Ce n'est pas à ma guise.com. Ce n'est pas quand ça m'arrange. Ce n'est pas si j'ai envie. Ce n'est pas si je pense que je peux ou que je ne peux pas. Ce n'est pas en fonction de ce qu'il a fait ou pas fait. Ce n'est pas en fonction de l'humeur du jour. Ce n'est pas en fonction de ce que j'estime ou j'estime pas. Ce n'est pas en fonction de ce qui m'arrange. Non, ce n'est pas une option. La Bible me montre que pardonner, c'est une façon de vivre dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume. Le pardon, c'est un mode de vie. Et c'est en cela que la grâce nous rend responsables. On peut lire pour conclure la parabole du serviteur impitoyable. Je vais simplement donner quelques grandes lignes, quelques grandes pistes. Mais si vous retournez sur le site internet, vous regardez toute la série sur la grâce de Dieu, et dans les enseignements de la grâce, vous allez trouver un message qui s'appelle « La grâce nous enseigne à pardonner ». Et là, vous en aurez beaucoup plus, vous aurez tout le détail sur la parabole. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23. Jésus est en train de répondre ici dans le contexte, il est en train de répondre à l'apôtre Pierre. Et Pierre, lui, s'imagine que pardonner cette fois, c'est largement suffisant. Il s'imagine qu'il a compris quelle est la norme du royaume de Dieu. Il s'imagine qu'il est capable de s'y hisser par lui-même. Pour lui faire comprendre ce qu'il dit, lorsque Jésus dit « Non mais moi je te dis pas cette fois, je te dis 70 fois cette fois », Jésus est en train de lui montrer que le pardon en réalité est une source. On ne peut pas le compter, on ne peut pas le comptabiliser, on ne peut pas le rationaliser, on ne fait pas des comptes d'apothicaire. Non, le pardon, c'est une source, c'est une dimension illimitée, c'est une façon de vivre surnaturelle, ce n'est pas terrestre, c'est dans le royaume des cieux, c'est dans les cieux, dans cette dimension spirituelle dont on a parlé ensemble. C'est là que le pardon est une façon de vivre, c'est là qu'il est limité, c'est là qu'il est merveilleux, c'est là qu'il est surnaturel, c'est là qu'il est extraordinaire, c'est là qu'il est surabondant. Et on ne peut pas le compter. Alors comment est-ce que le Seigneur va nous faire comprendre les dimensions de ce pardon et surtout comment est-ce qu'on va réussir à pardonner ? Eh bien le Seigneur, dans cette parabole, non seulement nous montre la dimension du pardon divin, mais il nous montre aussi le moyen d'y parvenir. Trop de chrétiens se disent « comment on fait pour pardonner ?» Et Jésus a apporté la réponse. C'est là, c'est sous nos yeux. Le royaume des cieux, verset 23, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le roi, dans la parabole, c'est Dieu lui-même, dans la métaphore. Quand il se mit à compter, le seul qui a le droit de compter, de tenir des comptes, c'est le Seigneur lui-même. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, c'est une évidence, la Bible dit « ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat ». C'est impossible. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, derrière le serviteur, c'est vous, c'est moi, c'est l'être humain dans son besoin désespéré de pardon, c'est l'être humain qui s'imagine qu'il va pouvoir encore mériter ou acquérir quelque chose. Le serviteur se jetant à terre, se prosterne devant le maître, devant Dieu, et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout ». Ça, c'est la folie de la religion qui s'imagine qu'à force de bonnes œuvres, elle finira par s'attirer la clémence divine. Mais ils ne peuvent pas, évidemment. La dette est beaucoup trop immense. Le péché est une affaire beaucoup trop grave. Et là, surprise, révolution de la grâce, bonne nouvelle du pardon divin, verset 27, « Ému de compassion, le maître, le roi, le maître de ce serviteur, Dieu lui-même, le laissa aller et lui remit sa dette. » Quel Dieu est semblable à toi, toi qui pardonnes l'iniquité et qui oublies le péché. Il lui a remis la totalité, l'intégralité de sa dette. Et c'est là qu'ensuite, après la bonne nouvelle de ce pardon illimité, extraordinaire, qui a dépassé les attentes du serviteur, c'est là que la grâce nous rend responsables. C'est là que nous arrivons à ce fameux « comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » parce que ce n'est pas une option, c'est logique. Lorsque ce serviteur, verset 28, sort du palais royal, il rencontre un de ses compagnons qui lui doit 100 deniers. Alors il faut savoir que 100 deniers, ça correspond à peu près à 3 mois de salaire pour un ouvrier de l'époque. Alors que 10 000 talents, rapidement, hein, c'est une hyperbole, c'est volontaire. 10 000 talents, ça correspondrait à plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Le talent, c'est la monnaie la plus forte à l'époque de Jésus. 10 000, c'est le plus gros chiffre qu'on utilise. On ne parle pas de 10 500, 11 000, 12 000, 13 000. Ça n'existe pas. 10 000 talents, c'est déjà largement plus que tous les impôts que l'État romain a collectés. 10 000 talents, c'est déjà 10-15 fois le budget annuel de l'État. C'est énorme. D'ailleurs, personne ne peut contracter une dette comme ça. C'est pour ça que Jésus prend cette hyperbole. C'est pour nous montrer quelle est la véritable dimension de la dette du péché. Pour qu'on comprenne ensuite quelle est la véritable dimension de sa grâce et de son pardon. Alors lui, il avait une dette qui était incommensurable. Il est au bénéfice d'une grâce inexprimable. Il sort du palais royal, il rencontre quelqu'un. Il le saisit, il l'étrangle. Et il dit, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplie, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Et là, par contre, 3 mois de salaire, c'est tout à fait gérable, il peut le rembourser. Mais l'autre, le serviteur impitoyable, ne voulut pas. Il le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Folie et incohérence des gens qui refusent de pardonner. On les jette dans des prisons non plus matérielles, on les jette dans des prisons intérieures, dans des prisons spirituelles. Comment est-ce que ce compagnon va pouvoir lui rembourser s'il est en tôle? Non mais, aberration des gens qui refusent de pardonner. Quand on refuse de pardonner, on fait des choses vraiment stupides. Les autres compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Et Dieu sait que cette dette, tu ne pouvais pas la payer et combien elle était immense. Parce que tu m'en avais supplié. Pardonne-moi mes offenses. J'ai rien pour te payer, j'ai rien pour te rembourser. Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Voilà, c'est tout, tu m'en avais supplié. » Et c'est là qu'il y a cette phrase extraordinaire qui nous montre aussi que le pardon n'est pas une option, mais c'est une logique divine, c'est une logique du royaume, et que la vraie question de la vie chrétienne, ce n'est pas comment est-ce qu'on fait pour pardonner, la vraie question, c'est comment est-ce que tu fais pour ne pas pardonner. Puisque le maître dit, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas toi aussi pardonner? Avec tout ce que tu m'as fait, avec tout ce que je t'ai pardonné, comment est-ce que tu peux aller pinailler un frère, une sœur pour si peu, vu tout ce que moi, je t'ai effacé comme dette? Ne devais-tu pas aussi avoir compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon père, eh ben oui, mais ça reste toujours un père. Hein. Dieu n'est pas devenu un père fouettard. Dieu n'est pas devenu un tyran ni un bourreau. C'est toujours mon père. Mais mon père, il m'éduque. Mon Père, il ne me laisse pas sur une voie qui va dans laquelle je vais me perdre. Il ne me laisse pas entrer dans un processus destructeur. C'est ainsi que mon Père, oui, parce que c'est toujours un Père, vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, parce que le but, l'enjeu, la finalité, c'est de pardonner de tout son cœur. Le pardon, dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement biblique, le pardon est une évidence, c'est une façon de vivre, c'est ma responsabilité. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'accepter un moment d'arrêter d'avoir toujours les yeux fixés sur les dettes que nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants, notre patron, notre employé, notre femme, nos gosses ont contractées contre nous. Arrêter d'avoir les yeux fixés sur ces dettes-là, mais de considérer quelle est la grandeur, l'immensité du pardon divin qui a annulé une dette, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, qui a annulé une dette qui était impayable. Et si mes yeux sont fixés non plus sur moi, sur mes bobos, sur ce qu'on m'a fait, sur ce qu'on m'a dit, mais que mes yeux sont fixés sur l'immensité de la dette que l'immense amour de Dieu, son immense grâce et son immense compassion ont effacée alors qu'il ne me devait rien, logiquement derrière, je ne vais pas me dire comment fait-on pour pardonner. Derrière, logiquement, je vais dire, mais c'est vrai, comment faire pour ne pas pardonner ? C'est tellement évident. Et c'est ça l'enjeu de la parabole. Le pardon, c'est une décision de cœur, c'est un engagement. Le Notre Père est une prière passionnée, est une prière engagée. Ce n'est pas une prière du bout des lèvres, c'est une décision. Le Notre Père est aussi une prière, un modèle de prière par lequel je m'engage à pardonner. Et quand cette décision de cœur est prise, quand mes yeux sont fixés sur Jésus la victime et non pas sur moi, Stéphane, la victime, quand mes yeux sont fixés sur la dette qui a été acquittée et non pas sur la dette qu'un tel ou un tel a contractée envers moi, ça devient naturel et inévitable de pardonner. Je dis juste un mot quand même au sujet de ce que Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Jésus, à la fin de la parabole du roi miséricordieux, dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, il va le livrer au bourreau. » Ça ne veut pas dire que nécessairement, à la première incartade, au premier refus de pardon, le Seigneur va me jeter en enfer et puis que j'ai perdu mon salut, c'est fini. Faut pas exagérer non plus. Il faut bien comprendre, lorsque Jésus parle de ses bourreaux, il parle de bourreaux spirituels, de ces bourreaux que sont la rancœur et l'amertume. Et lorsque dans un cœur il y a un refus de pardon, à un moment le Seigneur va comme nous pousser un peu plus entre les mains de ces bourreaux qui nous torturent spirituellement parlant, qui nous torturent intérieurement, afin que l'on comprenne les implications de notre entêtement et de notre refus de pardonner. Ces bourreaux sont spirituels. Il faut que le chrétien, vous, moi, il faut que chaque chrétien comprenne que si le pardon est une puissance libératrice, le non-pardon, le refus de pardon, c'est aussi une puissance de l'ennemi, c'est une arme entre les mains de l'ennemi, une arme de destruction, une arme d'empoisonnement. Le non-pardon est aussi extrêmement dangereux parce qu'il nous fait entrer dans un processus où quelque chose subsiste. Un péché ne peut pas être pardonné, il y a blocage. Et puis un autre péché subsiste parce qu'il y a blocage. Il y a refus de pardon et Dieu bloque, Dieu conteste avec nous. Et un autre, et un autre, et un autre. Et la Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et plus je vais m'entêter dans cette voie-là, plus ça va s'accumuler, plus je rentre dans un processus d'éloignement du Seigneur. Où mon âme de plus en plus torturée retombe dans la culpabilité, dans la condamnation. Et excusez-moi, les gens qui refusent de pardonner, c'est 100% inévitable, finissent tous par redevenir de parfaits petits pharisiens. Et on peut effectivement finir par déchoir de la grâce. Le non-pardon, le refus de pardon est un processus extrêmement dangereux. Je comprends qu'il y ait autant d'enseignements bibliques sur cette question fondamentale. Seigneur, oui, il y a des moments où j'ai tellement de mal à pardonner comme tu m'as pardonné. J'ai tellement de mal à fixer mes yeux sur toi, sur ce qu'on t'a fait à toi, et au lieu de fixer mes yeux sur ce qu'on m'a fait à moi. Seigneur, mais je prends cette décision, je choisis, je m'engage par cette prière, par ce modèle de prière, je m'engage dans mon cœur, je prends cette décision, c'est un choix de ma volonté. Seigneur, je veux pardonner. Et quand on a cette attitude de cœur, c'est inévitable, l'Esprit vient à notre secours et il nous aide. À nous la volonté, à lui la capacité. Amen. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé.